MM Radio. MM Radio. Bonjour à tous, me revoici Angela Puti pour une cinquième saison du Lunch Show qui fait son retour pour une saison spécialement courte mais qui ne manquera pas de toujours être riche, cela à travers des conversations créatives, inspirantes et surtout intéressantes. Chers auditeurs, bienvenue à nouveau dans le Lunch Show sur MM Radio, merci de nous rejoindre et de poursuivre l'aventure pour cette nouvelle saison. Alors les actus. Pour cette rentrée, nous allons parler dégustation, bout de lecture que nous allons vous conseiller. Nous allons parler chiffon aussi. Nous allons surtout parler sécurité. Et nous allons parler conseil et coaching avec nos invités du jour, Florence Meyer, coach certifié auprès d'organisations et individus, également auteur de l'ouvrage J'ai réussi ma transition professionnelle. Et Philippe Rondel, senior security architect et évangéliste cyber chez Checkpoint Software. Je vais y arriver. Comment allez-vous dans cette nouvelle année ?
Bien.
Bien, l'année commence bien, très active.
Oui.
Reviens sur les chapeaux de roue. On oublie déjà très vite les vacances et la grève, comment ça se passe pour vous ? C'est un grand sujet.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est vrai ?
Oui, parce que voilà, j'ai mon pédomètre.
C'est vrai, je suis d'accord.
Il est ravi de tous ces kilomètres que je fais.
Voilà. Exactement, c'est quoi ? C'est un Fitbit ?
Oui, c'est un Fitbit.
Et ça va, vous êtes ravi de...
Je bats mes records, oui.
Vous faites plus de 10 000 pas, je suis sûre.
Oui, largement.
Tant mieux. Et vous, Philippe, ça va ?
Je ne bats pas mes records.
Non.
La marche, je bats mes records de temps dans la voiture.
C'est tout. Ça, c'est clair. Et au travail, non ?
Ça va.
Bon, très bien. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la bonne nouvelle. Je vais vous demander, Florence, quelle est votre bonne nouvelle du jour ?
Mais moi, c'était ça, ma bonne nouvelle.
Ah,
c'est
très
que
bien.
Voilà, tous les jours, je fais en moyenne 15 000 pas. Et,
c'est pas mal.
Voilà, comme bonne résolution, là, je suis forcée de la tenir.
Et vous allez à la salle de sport en même temps ou...
Non.
Faut choisir. Hein.
Non, ça me suffit.
C'est clair, je peux faire un choix, on peut pas faire les deux.
Voilà.
Très bien, et Philippe, votre bonne nouvelle ?
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a annoncé hier, nos équipes de recherche ont trouvé des vulnérabilités sur le réseau social TikTok.
Et oui,
par chance, ils ont pu résoudre les problèmes donc, chez TikTok avant que quelqu'un n'exploite cela, puisque n'importe qui pouvait accéder aux données et modifier les vidéos à loisir. Donc c'était un peu problématique en termes de sécurité.
Et TikTok fait quelque chose de son côté ?
Oui, en fait, c'est nous les avons alertés. Hein, il y a quelques semaines quand on l'a détecté.
D'accord.
Et c'est eux qui ont corrigé. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de l'annoncer.
D'accord,
c'est déjà
bien.
Corrigé. On évite de publier des choses pour qu'elles puissent être exploitées ensuite.
Donc, et TikTok, avant, bien sûr, on va en parler pendant votre partie interview, mais TikTok est votre client ou pas ?
Non, pas du tout.
Vous êtes des sentinelles.
Exactement.
Ah, ok, très bien. Merci beaucoup pour tout, en tout cas. En tout cas, question bonne nouvelle, en cette saison hivernale de grève épuisante et de rendez-vous chez les médecins de plus en plus difficile et long à obtenir. Oui. Voilà une bonne nouvelle qui vous évitera de vous déplacer chez un praticien pour obtenir un arrêt maladie. Alors le site allemand intitulé arrêtmaladie.fr, lancé il y a un an par un médecin de Hambourg, débarque tout juste en France et vous propose à la suite d'un questionnaire, d'une téléconsultation et d'un diagnostic fiable de recevoir un arrêt maladie pour une durée de 3 jours. Avec 4 justificatifs déposés par le médecin, prescrits dans un espace sécurisé pour l'envoi au site Amélie, à son employeur et à la CPAM. Voilà, une pratique qui s'élève à un montant de 25 euros payable en ligne. Tout se fait en ligne, hein. Une bonne pratique nouvelle pour vous ou ça risque les abus ? C'est ce que je me suis dit aussi. Donc vous serez amené à utiliser une telle plateforme, on sait jamais, avec la grève et tout.
En tant que manager, je regarderai quand même les arrêts qui viennent de là.
Mais il y a quand même le médecin, on va dire, à distance, il y a la téléconsultation, etc. Mmh. Mais bon... Voilà,
oui.
À tenir, on parle à un évangéliste cyber,
c'est ça ? Regardez,
exactement, en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je l'ai vécu chez le médecin pendant la grève, c'est très difficile, c'est pas mal de pouvoir avoir ce moyen et de pouvoir s'arrêter, mais bon. Voilà, je vous souhaite bien du courage et bonne expérience sur cette plateforme. On commence avec notre moment dégustation du Lunch Show avec deux nouveautés. Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café en général ?
Plutôt café.
Les deux,
ça dépend des...
Ça dépend du moment de la journée. Voilà.
Exactement, à un moment donné, il faut arrêter le café à 13h, c'est ça ?
Oui, à peu près, ouais.
14, limite.
Le soir.
Ah, Ah bon? Non. Vous dormez bien, en vrai?
Oui, sans problème.
Ah, c'est, vous êtes la deuxième personne que je rencontre qui me dit qu'il boit du café avant de dormir. Enfin, je sais pas si c'est avant de dormir, après tout. Ah oui, d'accord, ok, bon, très bien. Commençons avec des boissons chaudes dont nous avons bien besoin cette saison de maladie hivernale. Il s'agit des thés de la marque indépendante Fitaletti que nos invités, enfin surtout... a eu le plaisir de commencer à déguster. Alors, avant de vous demander votre avis, Florent, sur ces thés, les saveurs que vous avez choisies, ce que vous en pensez, quelques informations sur Fitaletti à nos auditeurs. Alors, c'est une jeune marque bretonne qui a reçu de nombreuses récompenses pour ses thés, infusions et cafés d'origine naturelle. Fondée par Hélène Bourges, docteur en pharmacie et dirigeante d'une pharmacie d'officine en Bretagne, Fitaletti propose des thés et des infusions de différentes saveurs afin d'améliorer notre santé, ainsi que des cafés dotés d'actifs selon ce que vous voulez perdre, soit en poids ou booster votre énergie tout au long de la journée. Alors sur le plateau, on a 4 saveurs testées à la rédaction. Alors ce matin, pour me réveiller, j'ai tenté à la place du café l'infusion énergie et tonus. Et ça marche, franchement, ça fait très bien son job, 100% bio, à base de cardamone, maté, guarana, aux herbes d'anis et de cannelle. Vous avez choisi détox, c'est
le
ça,
détox,
Florence?
Oui, après les fêtes, ça me paraissait...
Il reste encore des choses. Alors oui, c'est le détox et digestion bio, un thé aux vertus rééquilibrantes pour renforcer son métabolisme. Donc foie, rein, intestin, à l'aide de plantes, c'est parfait, dont la badiane et le fenouil à l'action digestive et détoxifiante. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'aime beaucoup le goût, très frais, ouais. Oui, très vert.
D'accord, très bien. Alors, on a une invitée spéciale en cachette dans les coulisses ici, qui a goûté aussi. On va lui demander son avis également. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Très bien, ouais, pas trop fort, oui. Et fruité,
parfait.
Très agréable.
C'est très bien. Bon, bah génial. L'autre thé que nous n'avons pas goûté, c'est Vitalité Bio. Il s'agit d'une infusion 100% bio pour les défenses naturelles à base de poivre noir, au cynorhodon et gingembre. C'est bien, on découvre des plantes revitalisantes. Et puis, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, vous avez infusion sommeil à base de mélisse, camomille, citronnelle et orange pour apaiser et réparer notre système en fin de journée. Je pense que c'est pour des personnes qui ont des débuts d'insomnie, mais pour les cas un peu plus graves, je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces créations pensées par une pharmacienne avec de telles vertus? Pas mal?
Oui, je trouve ça intéressant. Et puis ce que j'aime bien, c'est le label AB. Et,
tout à fait.
Voilà, qui est reconnu.
Ouais. Sécurisant, tout à fait. Et puis, à la place des médicaments, c'est pas mal aussi, de passer à des choses plus naturelles. Ça vous tentera prochainement, Philippe Rondel, ce genre de thé?
Pourquoi pas?
Ouais, qui sait? Alors, les thés infusion 100% bio Fitaletti sont en vente dans des sachets vrac, comme vous avez ici, de 100 grammes à partir de 17,80 €, et les cafés en capsule à partir de 11,60 €. Qu'est-ce que vous pensez des prix? Silence sur le plateau. C'est cher.
J'ai pas tellement de poids à faire.
Je pense que le café, ça va. Après, pour l'été, pour 100 grammes, je pense que c'est un peu...
Ça semble un peu léger.
Tout à fait excessif. Alors, seconde dégustation, pas mal après le thé, je sais pas. C'est à propos de Tic Tac. Voilà, la petite pastille de 0,49 grammes précisément que on connaît tous Tic Tac, heureusement. J'espère. Qui fait parler d'elle à l'occasion de son 50e anniversaire avec 2 saveurs célébration que je vous laisse découvrir pendant que je vous fais un court rappel de l'histoire de la marque. Alors, est-ce que vous consommez du Tic Tac encore aujourd'hui?
Non, j'ai
ça
arrêté.
Ça fait un petit moment.
Ouais, c'est clair.
Mais se dire que j'en avais, ils étaient plus petits.
Oui, aussi, tout à fait. Je vais vous raconter pourquoi.
La boîte a changé.
Exactement.
Voilà,
ouais, ils ont pensé écolo, ouais, je pense. Alors, Tic Tac, timidement né en 1969, débarque en France et en 1970, et devient la première confiserie de poche connue pour son packaging pratique. Alors après des goûts plutôt frais comme on vient de goûter pour la laine, Tic Tac lance de nombreux goûts et touche un plus large public et pour plus de 70 pays, des saveurs fruitées, etc., etc. Alors pour ses 50 ans, Tic Tac se concentre sur sa signature fraîcheur avec 2 saveurs plus fortes encore, si vous l'avez senti, sans sucre et au poids légèrement plus conséquent. Donc c'est pour ça que vous avez des Tic Tac bien épais de 0,79 grammes. Alors il s'appelle Tic Tac Fresh Plus, il y a plein de plus partout en ce moment dans le nom des marques. Vous avez donc dégusté saveur église givrée qui explose en bouche, n'est-ce pas? Couleur église, donc noire, et saveur menthe polaire qui se ressent progressivement dans le palais, si vous êtes d'accord avec moi. Tous les deux incluant des cristaux de fraîcheur. Je n'ai pas très compris ce que ça voulait dire, mais je pense que c'est des morceaux de menthe. Alors, est-ce que vous en dites?
Le mien ressemble assez au Fisherman.
Ah voilà. Oui.
C'est assez...
C'est costaud, hein.
Assez fort.
Ouais, oui, mais ça dure pas très longtemps, non? Ça va. Oui, c'est encore là. Après, ça dépend si vous l'avez croqué ou comme moi, ou si vous êtes plutôt patient. C'est ça. Et vous, Philippe?
Moi, j'ai pas eu cette patience.
Comme moi.
Tu dois le reconnaître. Non, c'est effectivement beaucoup plus frais que ceux que je connaissais.
Tout à fait.
Les petits.
Ouais.
Qui étaient sucrés, mais je trouvais qu'il manquait un peu de goût.
Exact.
Là, c'est bien frais.
Ouais. Et sans sucre, donc ça fait du bien aussi pour notre santé. C'est une bonne idée comme création pour un 50 ans d'anniversaire. C'est un peu...
Bon, il y a le packaging, mais bon. Je suis nostalgique de l'ancien packaging.
Oui, c'est vrai, tout petit, avec le...
Avec le doigt.
Il y avait, je crois, qu'une pub, un slogan avec un doigt, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais bon, ça, c'est... Ouais, c'est... Non, pas ça vous plaît pas trop, le... Non.
Non.
C'est pas... Mais justement, on a eu du mal à le fermer ici. Hein.
Voilà.
Vous entendez. Bon, tic-tac, vous prendrez des notes. Alors, les boîtes exclusives tic-tac fraîches plus sont déjà disponibles au format de 20 pastilles uniquement en station-service et bar tabac au prix d'€1,39 l'unité. Et celui que vous avez goûté un peu plus gros, c'est la version 60 pastilles, €2,79 uniquement dans les super et hypermarchés. Donc voilà pourquoi c'est plus conséquent également. On va passer aux actus. Et on va parler de chiffon, ou presque, en tout cas. Alors, vous connaissez les défroisseurs transportables qui permettent de passer de fer à repasser et de table lors de déplacements aussi de gagner du temps. Alors, vous, j'imagine, vous vous déplacez souvent soit pour des conférences ou pour des événements. Est-ce que vous êtes amené à voyager avec ce type de produit?
Non.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est vrai que ça pourrait être utile dans certains cas.
C'est clair, parce que certains fers de certains hôtels... Oh là là, oui. On a peur. C'est clair, alors je vous propose de découvrir un défroisseur un peu plus design, ici, facile à ranger et léger, 58 grammes, je vais vous laisser tenir dans quelques temps dans les mains, avec une corde en laine, vous voyez, avec son petit bout qui se raccroche ici pour plus de praticité. Il s'agit de la seconde version d'une jolie création de la marque suédoise qui s'appelle Steamery, nommée Cyrus, couleur vert eau, donc c'est plutôt pas mal comme design. En général, c'est noir ou blanc ou gris, et c'est également proposé en bleu, noir et rose également, bleu marine. Alors c'est très simple à utiliser, il suffit d'ajouter de l'eau dans ce petit boîtier ici. Voilà, vous le repluguez. Son réservoir est de 90 ml, donc ça va. De brancher l'appareil et de les laisser se chauffer jusqu'à ce qu'il tourne ici au vert au niveau de son bouton en 25 secondes et de commencer à l'utiliser dès que la lumière, donc comme je disais, tourne au vert. On va vous faire une petite démo, je vous montre. J'ai pris une chemise en denim de la marque Gingy assez froissée, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit de... Voilà, vous voyez la petite vapeur. Et puis on commence. Je vais vous mettre sur la partie ici. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose, une différence. Vous pouvez passer à l'extérieur. Voilà. Et puis vous pouvez aussi le passer à l'intérieur. Si vous avez des tissus comme du lin, des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas pour la trace d'eau, ça part rapidement, c'est de l'eau. Mais voilà, c'est plutôt pratique en voyage, en déplacement. Et puis si vous avez des matériaux, du tissu un peu plus épais ou difficile comme ce denim. On peut passer en mode fer, vous avez sa plaque de 15 cm et puis vous le placez sur le lit ou si vous êtes dans une chambre d'hôtel et puis vous appuyez un peu plus profondément. Mais voilà, comment ça fonctionne. Pratique ou pas selon vous? Moi, elle a besoin de plus d'épaisseur cette chemise quand même.
À voir.
Mais je peux vous garantir que le top que j'ai ici de Caroline Bliss était froissé et j'ai repassé en 15 secondes avec. Voilà, bon, vous ne l'avez pas vu quand j'ai repassé, donc je ne sais pas, c'est très garanti ça, en tout cas. Vous n'êtes pas satisfait du résultat, c'est du denim, c'est un peu plus compliqué,
mais
il faut le poser sur... Mais j'avais dit que j'allais vous le faire découvrir, donc n'hésitez pas.
Oui, alors...
Voilà.
Alors ça mérite d'être léger. Hein.
Oui, exactement. Et le design au niveau du matériel aussi, c'est quand même pratique, avec sa petite corde. Vous avez une pochette de rangement également, pas mal. Vous pouvez le ranger directement, donc ça évite de brûler vos vêtements si vous êtes pressé pour louper votre avion, donc voilà. Et puis, je vous fais aussi découvrir de la même marque un autre appareil, une boule que vous avez ici, je vous laisse de la découvrir, qui s'appelle Pillow Fabric Shaver, couleur gris, mais aussi proposé en noir, bordeaux, bleu et rose, qui vous permet de retirer toutes les boules et autres imperfections de toutes sortes de vêtements, mais de façon automatisée, sans les abîmer. Alors, vous allez appuyer juste sur le bouton, juste, voilà, et vous passez sur le vêtement. Pratique! Donc, comment ça se passe? Vous chargez l'appareil en 5 heures pour une utilisation de 50 minutes sur toute forme, un ordinateur, je l'ai fait juste avant. Vous avez la petite brossette pour enlever les petits poils qui restent. Mmh. Vous avez le capot à retirer en dessous pour enlever ce qui reste. Et vous travaillez votre vêtement et ça fait du bien aux poignets. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces petits appareils? C'est pas mal, hein?
Ouais, pas mal.
La technologie envahit toutes sortes...
Je l'ai pris pour un diffuseur d'huile essentielle.
Ah, c'est vrai! Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, vous utilisez en général des appareils pour retirer des... Vous le faites à la main, hein, comme tout le monde.
Oui, un peigne classique. Ouais.
Voilà. Et puis là, vous avez plus qu'à faire ça. Ça va un peu drôle, mais mais c'est sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'appareil? Non, vous n'êtes pas trop technologique dans le quotidien en général?
Oui, pour les vêtements, bon...
On peut se débrouiller?
Oui, je pense.
Peut-être que le prix va vous parler.
Oula, oui.
Le Cirrus donc de Steamery, disponible avec une pochette anti-sèche, comme je vous le disais, au prix de 120€.
Ouais.
Pas mal.
Ouais. Mm-hmm.
Et le Pillow Fabric Shaver est au prix de 40€.
D'accord.
Ça va. Tout à fait. Les deux garanties 1 an en vente sur steamerystockholm.com, qui propose bien plus de produits de son laboratoire dans le même domaine, chiffon, etc. etc. C'est pas mal aussi pour les marques qui ont beaucoup de showrooms, qui se déplacent avec des vêtements. Et autre chose, commençons avec le segment interview avec Florence Meyer. Vous êtes coach certifié et vous avez réuni vos plus précieux conseils, outils, exercices et cas dans un manuel intitulé « Je réussis ma transition professionnelle » destiné à toute personne qui cherche à se reconvertir, à oser pour largement résumer. Alors à quel niveau intervenez-vous en tant qu'accompagnatrice auprès de personnes et entreprises?
Très souvent, très en amont, mm-hmm. dès que la personne en fait se dit « j'aimerais changer de job, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, j'ai pas d'idée, mm-hmm. ou j'ai trop d'idées et j'arrive pas à choisir mm-hmm. ». Donc c'est vraiment très, très en amont dès que le déclencheur est là. En fait.
D'accord, ok, donc on vous consulte dès le départ en fait. Je pensais que c'était à un moment donné.
Ouais.
Ok, je vous laisse découvrir l'ouvrage, ouais. Philippe.
Merci.
De nombreuses personnes font des transitions extrêmes.
Oui.
Nous avons notamment reçu sur le plateau du Lunch Show des avocats qui se lancent dans l'industrie du fitness. Nous avons rencontré des banques qui deviennent des restaurateurs et tant d'autres. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une mode de transition qui devient de plus en plus courante ou simplement d'un problème de choix de métier à l'initial?
J'ai le sentiment que ça devient vraiment une tendance profonde.
D'accord.
Et ce que je peux voir chez mes coachés ou dans mon entourage, c'est que les personnes sont de plus en plus en recherche de sens et réalisent que le métier qu'elles exercent finalement répond plus forcément à cette demande.
Ouais.
Soit parce que leurs goûts ont changé, soit parce qu'elles ont choisi ça en suivant un peu une voie toute tracée.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il y a un moment où ces personnes se sentent en décalage entre leur activité professionnelle et leur recherche de sens profonde, leur motivation interne.
Exactement. Et puis aussi les motivations financières aussi qui ont dû...
Ça
aussi,
peut arriver aussi. Oui, oui.
Et puis finalement, à un moment donné, on s'en fiche. On veut juste se sentir bien.
Oui,
c'est
absolument.
Ça. Ouais. Alors, quelle est l'étape la plus stagnante que vous remarquez lorsque vous accompagnez tout un chacun?
Là où j'observe un déclin dans l'énergie, c'est souvent après la phase de brainstorming.
Mmh.
Donc la phase de brainstorming, on a réfléchi ensemble à différentes pistes possibles.
Ouais.
Et là, parfois, justement, le choix va paralyser la personne.
Ah.
Elle a du mal à continuer d'avancer parce qu'il y a finalement trop d'options pour elle.
Ouais, problème de décision.
Oui, oui. Mmh. Donc il y a un travail à faire sur resserrer les choix possibles pour arriver à 2-3 grands scénarios.
D'accord.
Et travailler ensuite sur le plan d'action pour repérer la première petite action à mener, ce que j'appelle les baby steps.
Ok. Ce que j'aime bien avec vous, c'est que dans ce que vous dites également, et dans l'atelier qu'on avait suivi lors de le lancement de vos livres qui est sorti en été, c'est que vous influencez, mais vous ne prenez pas la décision à la place du coaching.
Non, oui, j'ai envie de dire surtout pas.
Yeah.
Et si la personne reste bloquée, elle reste bloquée. Enfin, c'est pas à moi de forcer le mouvement.
Tout à fait.
Ouais.
Mais de quelle manière vous l'enclenchez? Est-ce qu'il y a moyen à un moment donné de dire comme un enfant, de pousser dehors?
Non, pas forcément. Enfin, j'y arrive en focalisant la personne sur le plan d'action, en disant, voilà, dans les 2 semaines à venir, qu'est-ce que vous pouvez mener comme action?
D'accord.
Ça, ça, ça aide à lever quelques blocages.
Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de craintes, j'imagine, de prendre la mauvaise décision?
Il y a des craintes de prendre la mauvaise décision. Il y a l'influence de l'entourage qui n'est pas toujours bienveillant ou pas, voilà, qui lui-même a peur. Ça peut être le conjoint, les parents,
tout
etc.
Fait, ouais.
Donc il y a aussi ces influences externes dont il faut prendre compte.
Oui, oui.
Et ça aussi, ça peut freiner la personne qui était partie à fond et qui se dit oula, ça va secouer un peu mon environnement.
C'est vrai. Vous parlez de mini-transition, mm-hmm. on a parlé du bon entourage, on vient de le parler, de réseau, de soft skills aussi, d'introspection, comme des étapes à considérer pour se faire une bonne transition. Mais quels sont les essentiels qui peuvent aider les auditeurs, notamment qui nous écoutent, à passer de la théorie, donc de l'idée de changer de métier, et même certains en l'excitation du début, vous savez, de l'idée, à la pratique, au concret, au grand saut du coup? Mm-hmm.
Je crois que ce qui peut vraiment les aider, c'est dès le début de prendre le temps justement de cette introspection.
Mmh.
Et c'est compliqué parce que justement les gens parfois dès le début veulent se lancer dans l'action.
Mmh.
Et moi je les invite au contraire à aller chercher justement quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs leviers de motivation. Mmh. Et ce temps-là qu'on va faire d'introspection, c'est vraiment du temps gagné pour la suite.
Ouais,
ça va éviter de nouvelles erreurs d'aiguillage.
Oui, c'est vrai aussi. Les gens sont tellement pressés, du coup,
oui,
et on les presse aussi.
Et c'est légitime, oui, bien sûr. On a envie de changer rapidement, on veut tout de suite se projeter dans sa nouvelle vie.
Ouais.
Et pour autant, cette étape-là prend du temps et elle va permettre d'en gagner par la suite.
Tout à fait, il y aura des décisions qui seront prises et mieux réfléchies, du coup. Vous apportez des réflexions réellement pratiques pour aider vos lecteurs, mais est-ce qu'ils sont obligés de suivre toutes ces étapes et dans cet ordre, ou peuvent-ils faire leur propre parcours?
Oui, alors surtout, je les encourage effectivement à faire leur propre parcours, à aller piocher un peu partout d'autres exercices.
Mmh.
Je pense que chacun doit aussi se construire son propre parcours.
Mmh.
Et il y a des personnes qui sont à des niveaux d'avancement différents, donc elles peuvent très bien prendre le livre à une étape plus avancée. Voilà, c'est vraiment à chacun de se bricoler son chemin.
Oui, je suis d'accord. Alors, le mentor est beaucoup évoqué dans l'accompagnement entrepreneurial et vous le faites également dans votre manuel. Alors, un mentor, pourtant, c'est coûteux. Il faut en plus avoir le temps à consacrer. Et aujourd'hui, de nombreux articles, comme des podcasts aussi, apportent tellement de conseils dignes d'un mentor. Que peut apporter de plus un mentor dans une étape de transition professionnelle particulièrement?
Le mentor, ce qu'il va apporter par rapport effectivement à toutes les autres ressources, c'est vraiment le partage de sa propre expérience. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est pas tellement les conseils généraux qu'il va apporter et qu'on pourrait trouver ailleurs. C'est comment lui a mené ce chemin-là. Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Quelles sont peut-être les erreurs qu'il a commises et qu'il peut essayer de vous faire éviter.
C'est vrai.
Donc c'est vraiment ce partage d'une expérience personnelle. Mm-hmm. Et ça, c'est unique.
Et comment choisit-on son mentor?
Je pense en partie par affinité. Et surtout, voilà, est-ce que cette personne-là a vraiment suivi le parcours sur lequel vous voulez aller vous lancer? Il faut qu'il y ait vraiment une similitude de parcours pour que ça résonne chez vous.
D'accord. Et si on ne connaît personne, est-ce qu'il y a un site avec des mentors?
Non,
des mentors.
Pas à ma connaissance. Mais après, justement, il faut utiliser son réseau et demander, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec une personne qui, trois petits points, s'est lancée dans tel domaine, etc. C'est le moment ou jamais de mobiliser son réseau.
Ça veut dire que le mentor n'est pas obligé d'être un mentor certifié.
Oui, et c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. J'insiste vraiment là-dessus, ça doit être quelqu'un qui a mené déjà cette expérience-là.
Oui, et qui peut vous éviter de faire des échecs ou du retard.
Les erreurs classiques, voilà.
C'est clair. Est-ce que vous avez un prochain projet d'écriture?
Oui, j'aimerais écrire sur les talents atypiques au sein des entreprises.
Oh.
On commence à découvrir ces talents atypiques. Alors, je mets derrière des hauts potentiels, aussi des personnes qui sont sur le spectre autistique, etc. On commence à se dire, mais tiens, il y a des talents qu'on n'utilise pas assez en entreprise.
Ouais.
En même temps, c'est difficile de les intégrer, donc j'aimerais écrire là-dessus comment mieux intégrer ces talents et que ce soit une situation win-win pour l'entreprise et pour le collaborateur
atypique. Parce qu'il faut qu'elle sache l'utiliser, ce talent, du coup.
Exactement.
Pas le laisser dans un coin. Mais c'est marrant parce que je lisais un article sur le site Inc.com il y a quelques jours qui disait que justement, les entreprises, il faudrait qu'elles arrêtent de donner des titres un peu extravagants à des personnes CEO, SOO, donc à un moment donné, il faudrait que la personne fasse le job et puis qu'on se concentre plus sur ses responsabilités responsabilité.
Oui, ça me paraît raisonnable.
Ça serait
pas mal.
C'est pas mal.
C'est d'accord.
C'est clair. Qu'est-ce que vous pensez de cet ouvrage, Philippe?
Je pense que très intéressant. Je pense qu'il faut qu'on trouve effectivement son chemin lorsqu'on veut changer de job. J'avoue que je m'étais posé la question il y a quelques années. Comme je n'avais pas trouvé de chemin.
Ben, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait du coup?
Non, en fait, c'est le... Enfin, le projet était de partir en province, donc comme ce type de poste, on ne peut pas forcément les retrouver en province, l'idée était de voir ce que je pouvais faire ensuite. Bon, trouver de piste.
Qui sait, avec cet ouvrage, on ne sait jamais en tout cas. Mais pour conclure, j'imagine que les clients que vous avez vous ont inspiré pour ce livre. Vous avez dit en conclusion que vous avez mis du temps pour faire naître ce livre. Qu'est-ce qui vous a dit, il faut vraiment que tu le fasses?
Je crois que c'est justement le fait que quasiment la plupart de mes clients traversent cette situation de transition professionnelle. Il y avait vraiment énormément de demandes sur ce sujet-là. Mm-hmm. Je me suis dit, je vais écrire un manuel sur ce sujet. Il y a vraiment une demande.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas coach certifié spécialiste pour la transition professionnelle?
Non, mais en fait, c'est...
Qu'est-ce que vous proposez en général?
Alors, j'accompagne aussi des cadres dirigeants dans leur prise de poste.
D'accord.
Par exemple, des personnes qui accèdent à un comité de direction, voilà, je les aide sur les 6 premiers mois pour s'assurer que tout se passe bien, parce que généralement ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc ça peut être bon de prendre un coach pour assurer les 6 premiers mois.
Oui, je lisais un livre qui s'appelle Les 90 jours. Les 90 jours.
Réussir les 90 premiers jours.
Je crois qu'il a même
excellent.
Je sais plus. Je crois que c'est des Pearson éditions, quelque chose comme ça.
Oui.
90 jours, c'est là où on est.
Oui, c'est vous. On attend des résultats très rapidement, et donc vous avez à peu près 90 jours pour faire vos preuves. Ce qui passe très vite.
D'accord. Vaut mieux être accompagné pour cette période-là.
Comment réussir cette échéance?
Vous confirmez, Philippe?
Je n'ai pas vécu...
Ah, bon, très bien. Pas eu tant de pression.
À ce niveau-là.
Ouais.
C'est vrai que le changement de poste, et on voit aussi quand même des gens et des clients qui rencontrent certaines difficultés sur les prises de poste.
C'est vrai.
Je pense que c'est très utile.
Très bien. Alors, je réussis ma transition professionnelle. Votre premier ouvrage de 180 pages, Florence, est disponible au prix de 18,90 €, publié chez les éditions Diaténo, qui publie de merveilleux ouvrages à chaque fois qu'on a le plaisir de présenter. Merci beaucoup, Florence.
L'émission Lecture fait également sa rentrée en cette 7e saison de MM Radio. Spécialement bimestrielle, nous avons le plaisir de vous faire découvrir la première conversation de la saison 5 de notre programme dédié aux auteurs. Avec Alain Patrick Tsengue, pasteur et visionnaire des églises ACER, également fondateur de la plateforme Évangile TV, nous discutons de son dernier ouvrage intitulé « Comment recevoir et garder sa guérison ». Faites tomber tous vos a priori et ouvrez vos esprits pour en apprendre plus sur la guérison et la santé divine offerte par grâce par le moyen de Jésus-Christ. Voici un extrait. C'est vrai que beaucoup de gens se disent que pour être guéri plus rapidement, je vais faire des efforts humains.
Non.
Ça marche pas beaucoup.
Non, il ne faut pas faire des efforts humains, il faut faire des efforts spirituels.
C'est ça.
Alors, il faut faire des efforts spirituels. On a quand même quelques efforts spirituels à faire pour avoir certains résultats spirituels.
En quoi les actes de foi et le changement de mauvaises habitudes sont complémentaires à la guérison et le fait de la conserver?
La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la foi, ce n'est pas tout simplement croire, mais la foi, c'est agir selon ce que nous croyons. Si nous croyons et que nous n'agissons pas selon ce que nous croyons, notre foi ne sera pas effective. Et donc, c'est important de poser ce qu'on appelle des actes correspondants. Je vous prends un exemple très simple. Si quelqu'un vient là dans la pièce et que la personne s'écroule et qu'un médecin vient l'examiner, le médecin dit non, la personne est affamée, il faut lui donner à manger. Et on va acheter la nourriture et on met juste à côté. On dit à la personne, est-ce que tu crois que si tu manges cette nourriture, tu seras mieux? Et la personne dit oui, je crois que si je mange cette nourriture, je serai mieux. Mais elle ne mange pas. Et au bout de la 10e fois, elle le répète, elle dit je crois, mais elle ne mange pas. Et la personne meurt ou elle s'évanouit. Elle s'évanouit. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'a pas cru, mais parce qu'elle n'a pas associé l'action à sa croyance. Voilà un très bel exemple. Il y a beaucoup d'actes correspondants qu'on peut accomplir en fait lorsqu'on veut recevoir la guérison ou garder la guérison.
réécouter cette conversation à partir du mercredi 15 janvier sur MM Radio. Découvrez également les citations de cette conversation sur nos réseaux sociaux @masterminderent ainsi qu'un premier extrait audio imagé sur MM TV Production via YouTube. Retour au lunch show.
On va continuer nos actus, toujours dans le monde du chiffon si on veut. Non, je rigole. Dans la technologie design plutôt, on continue dans ce domaine-là. Alors, notre smartphone étant devenu un ordinateur de poche, est-ce que vous avez toujours sur vous un chargeur mobile?
Toujours.
Ah, merci. Non ?
Plusieurs, en fait.
Et vous chargez constamment votre téléphone,
j'imagine ? Oui, et j'angoisse constamment.
Ah, voilà, c'est ça. Je ne comprends pas. Alors, les chargeurs sont de plus en plus courants aujourd'hui. Toutes les formes sont proposées, ainsi que toutes les puissances. Et je suis toujours surprise d'entendre des personnes encore demander de se faire prêter un chargeur de... Bon, moi, je les considère comme des aliens. Je m'y relate tellement à des prix de toute gamme de prix qu'on peut en acquérir vraiment partout. Alors, ceux que je vais vous présenter sont plutôt originaux. Tout d'abord, en design et en forme, vous les avez ici. Ils sont de la start-up française ACCO, A-C-C-O-O, qui s'est lancée sur le marché en 2014. Voici pour les charges courtes que vous avez dans les mains. Philippe, le modèle S, qui offre une capacité de 2500 mAh, ce qui équivaut suite à nos tests au chargement d'un iPad Pro de 10% à peine. Donc voilà, très rapide, c'est vraiment pour des charges très très courtes, compatible avec tous les modèles de smartphone. Vous avez ici un câble qui est inclus, donc c'est un micro câble USB directement intégré à l'appareil également, des adapteurs Lightning et USB-C ainsi qu'un port USB pour charger un second appareil, mais que je vous déconseille puisque ce sont des petites charges qui sont proposées pour celui-ci. Et puis vous avez le modèle S qui est tout nouveau, retravaillé au bord arrondi, le plus performant, il est très léger, je vous invite à le prendre en main, qui monte jusqu'à 10 000 ampères pour celui-ci de charge, et donc le second port est bien ici utile. J'ai pu charger mon iPhone de 35% environ, puis mon iPad en pleine utilisation à 55%, donc c'est pas mal. Deux câbles, les adaptateurs sont également inclus pour ce modèle-ci. On va parler de la particularité des batteries de la marque ACCO, la possibilité de non seulement choisir parmi une variété de 127 imprimés réalisés par des graphistes et des artistes maison pour personnaliser sa batterie, si vous en avez deux, on ne sait jamais, elle est unique la vôtre, mais également de la personnaliser à partir de photos personnelles, de logos, comme ce que nous avons fait ici, avec le logo de Masterminder, vous voyez, des deux côtés. C'est pas mal, hein? Également, ça fait de la promo pour la marque. Ouais. Bon, voilà. Aussi du texte et des stickers pour un bon anniversaire, ce genre de choses. N'oublie pas ton chargeur, par exemple. Pour seulement 5 euros de plus. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de ces batteries externes? ACCO, marque française, made in France?
Moi, j'aime bien, oui, le petit format, puis alors, très chic, avec son imprimé Léopard.
Tout à fait. Et celui-ci, 10 000 ampères, c'est pas mal. Au moins, il tient une journée.
Des formats que j'utilise, voilà. J'avoue que pour l'instant je me concentre surtout sur le côté fonctionnel, s'il peut y avoir l'esthétique,
exactement pas. Vous avez plusieurs possibilités de charge pour plusieurs appareils, Philippe, sur le vôtre?
Oui, et puis plusieurs batteries de toute taille.
C'est clair. Alors, les batteries ACCO sont disponibles dans les modèles S, M et L à partir de 26,90€ en solde. Le prix original est de 29,90€ pour le petit modèle, donc profitez des soldes, c'est sur ACCO.com. Ça vous donne envie de prendre un chargeur,
je crois qu'il serait temps. Voilà.
Alléluia, si on a pu vous inspirer, c'est très bien. On continue le segment interview avec Philippe Rondel. Vous êtes senior security architect et évangéliste cyber chez Checkpoint Software, une société israélienne devenue leader mondial du marché qui depuis 1993 propose des solutions et produits permettant de sécuriser données mais également toute communication digitale, comme on a parlé dans la bonne nouvelle, pour les entreprises comme les particulier. Alors, avant de parler de sécurité, pourriez-vous nous expliquer quelle est la tâche d'un évangéliste cyber dans une telle société dont la mission est la sécurité?
En fait, j'ai deux rôles au sein de Checkpoint. Un premier rôle qui est l'accompagnement de grands clients sur des grands projets, établir l'ensemble des solutions et les architecturer au sein du système d'information.
D'accord.
Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est le côté plus porte-parole, comme aujourd'hui ou tout lors de présentations globales. Voilà. Donc,
ok.
Donc, aborder tous les différents sujets que peut regrouper la cybersécurité.
Alors, vous parlez d'un portefeuille de clients que vous avez au sein de la société, et vous avez parlé du cas TikTok qui n'est pas un client. Qu'est-ce que vous gagnez à conseiller une telle société?
Notre objectif, d'une manière générale, de toute façon, c'est de rendre Internet plus sûr. D'accord. Donc, pour cela, on mène un certain nombre d'études et d'analyses. On prend des sujets divers et variés. On a analysé les appareils photo de Canon, par exemple, qu'on a pu détecter qu'ils étaient vulnérables et qu'on pouvait en fait installer un rançongiciel, un ransomware dessus, donc chiffrer les données.
Oui.
Mais plein d'autres choses comme cela, prendre la main, on en discutait tout à l'heure, sur des aspirateurs connectés
tout
à distance.
Tout à fait, exact.
Notre objectif, c'est effectivement de communiquer auprès de ces fournisseurs, de les sensibiliser à la sécurité et de faire en sorte que leurs clients ne subissent pas de mauvaises actions.
Tout à fait. Mais comment se fait-il que ces grandes sociétés, parce qu'on parle quand même de Canon, hein, c'est ça, ont de telles failles?
On ne va pas accuser Canon plus particulièrement, c'est le cas d'à peu près toutes les sociétés.
Tout à fait.
Leur objectif premier, c'est que leurs produits fonctionnent, qu'ils sortent le plus tôt possible sur le marché pour éviter d'être en retard par rapport à la concurrence.
Tout à fait.
Et malheureusement, la sécurité arrive souvent bien plus tard. Les clients ne sont pas encore vraiment formés, il n'y a pas de label non plus, comme on peut l'avoir avec les économies d'énergie.
Oui.
Je pense que ça manque.
Oui.
Ça va, c'est des idées qui apparaissent. Différents États, aux États-Unis, l'Europe y réfléchit également pour pouvoir avoir un label sécurité sur les objets connectés.
Je pense que c'est
nécessaire.
Ok, à nous de faire plus attention en tout cas.
Oui, mais c'est toujours difficile d'avoir cette information.
C'est clair. Avec tous les problèmes dont on parle, donc de sécurité de données qui vivent de grandes entreprises et qui remontent à la surface ces dernières années par les médias, également par de telles entreprises comme Checkpoint Software, également le changement de nos usages sur le web, est-ce qu'il est réellement possible de protéger ces données digitales intégralement, Philippe ?
La sécurité 100% n'existe pas. Elle n'existe pas dans le monde physique, elle n'existe pas dans le monde virtuel. Mais effectivement, on peut toujours apporter des niveaux de sécurité plus élevés et apporter une sécurité qui correspond au risque que l'on a. C'est toujours important de pouvoir équilibrer. Et puis, si on a des données auxquelles on tient, peut-être d'y apporter un peu plus d'attention.
Donc, ne pas compter spécialement sur les entreprises pour ce service, quoi.
Non, alors, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais bien souvent, il est important, en tout cas, on le voit dans le monde de l'entreprise, et c'est forcément vrai également dans le monde du consumer, c'est que il ne faut pas faire pleinement confiance aux fournisseurs, faut toujours remettre en cause, et puis surtout essayer d'apporter sa propre brique de sécurité, son propre environnement qui sera maîtrisé, et c'est toujours plus facile.
Un exemple ?
Je pense par exemple à la sécurité dans les environnements cloud. On a beaucoup d'entreprises maintenant qui n'ont plus leur messagerie dans l'entreprise, utilisent les services de Google ou de Microsoft. D'apporter une brique de sécurité dans ces environnements-là pour contrôler ce qu'il peut rentrer. Est-ce qu'il y a des malwares inconnus qui sont en train d'arriver dans l'entreprise par ce vecteur-là est une chose importante, et d'avoir une visibilité et un contrôle paraît essentiel.
Ouais. Alors, quelle est l'approche particulière de Checkpoint Software à cet effet de protection ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ?
Alors, on propose vraiment tout type de solutions, puisqu'on se doit de sécuriser l'ensemble du système d'information. Donc, ça va de la sécurité du réseau, de la sécurité du cloud, comme on a pu le mentionner, des postes de travail, des smartphones, des tablettes.
D'accord.
Donc ça, on va dire, c'est plutôt pour le monde de l'entreprise. Et puis pour le particulier, ça tourne essentiellement autour de la sécurité des postes de travail, donc, et puis des tablettes et des smartphones, puisque c'est maintenant, on va dire, le terminal privilégié pour les utilisateurs.
À partir de logiciels, ce genre de choses, c'est ça ?
Oui, on apporte des logiciels dans ces deux environnements et on les sécurise de différentes façons, à la fois sécuriser la donnée, les communications, et puis contrôler que ces équipements sont encore sains. C'est un élément aussi important.
C'est vrai, parce qu'on reçoit de plus en plus de textos, notamment un peu point de goût, ce genre de choses, qui nous dit qu'on doit être remboursé, ou on a reçu un colis, et on se demande avec le doigt presque en suspens, est-ce que je crie ou pas, est-ce que mon téléphone va exploser. C'est vrai, ça devient de plus en plus compliqué. On va parler des soldes d'hiver, d'ailleurs plus courtes dans le temps, à partir de cette saison, qui ont débuté le 8 janvier. Est-ce que vous auriez trois conseils prioritaires à partager à nos auditeurs afin de les aider à repérer les cyber-escroqueries ?
Alors déjà, d'une manière générale, les cyber-escroqueries vont commencer avec de l'hameçonnage. Il faut faire en sorte que les utilisateurs aille sur le site qui va faire cette arnaque.
Ouais.
Donc la grande majorité des cas provient des emails. C'est le meilleur moyen pour eux de vous envoyer vers ce site, vous promettre une remise à 80-90% sur des marques, c'est fantastique.
Ouais.
Et puis il y a de grandes chances d'y aller. Donc déjà, c'est de détecter ces emails qui sont des emails frauduleux. C'est la première partie, et la partie la plus importante.
D'accord.
À ce niveau-là, déjà, recevoir des emails d'une société qu'on n'a pas sollicité.
C'est vrai.
Depuis le règlement général de protection de la donnée de mai 2018, normalement, ça ne devrait plus arriver. Je dis bien normalement, il en a un peu, mais pas tant que ça. Donc déjà, il faut se poser la question, si on n'a pas, si on travaille pas, ou si on n'a pas l'habitude d'acheter dans cette société-là et qu'on reçoit un email, il faut déjà se poser une première question.
C'est vrai.
Regardez ensuite le sujet de l'email, s'il y a des caractères spéciaux, type grec, cyrillique. C'est bien souvent pour contourner les systèmes de protection.
Donc
ça, c'est tout de suite à bannir.
Ouais.
Et puis, si vous avez également dans le sujet, commencer par re ou forward,
TR,
etc. Voilà, transition. C'est bien souvent pour faire croire que vous êtes déjà en relation avec cette personne. Et si vous ne l'êtes pas, c'est pas bon signe.
C'est vrai, c'est vrai. Et je réalise aussi que certains médias, ils font ce système. Je me dis, mais j'ai jamais envoyé de mail. C'est vrai.
Voilà. Donc, en général, quand on essaye de vous tromper d'une certaine manière, c'est pas bon signe.
D'accord, ok. Donc ça, ce sont trois conseils ?
Alors, non, parce qu'ensuite, le conseil principal, si vous ouvrez quand même l'email et que vous voyez quelque chose qui vous intéresse, ne cliquez pas sur le lien de l'email.
Ah.
Si ce site vous intéresse, si cette promotion vous intéresse, allez directement sur le site, si vous connaissez l'adresse, ou via un moteur de recherche. Mais vous vous affranchirez de cliquer sur le lien qui vous amène sûrement sur un autre site qui se fait passer pour celui-là. Il y en a beaucoup. Rien que pour donner un exemple, dans les 6 derniers mois, c'était 1700 sites qui se faisaient passer pour Amazon.
Oh, waouh. Ouais. Je crois qu'il l'a fait 2-3 fois aussi. Je me suis dit, je pars doute pour sécurité, je vais... C'est vrai.
Si ça vous intéresse, allez sur le site en question. Vous y retrouverez la promotion en question.
Tout à fait.
Et ça vous évitera d'être redirigé vers ce site frauduleux.
Ok, dernier petit conseil.
Dernier petit conseil, c'est une fois qu'on est sur un site, si jamais on a quand même cliqué sur le lien, fouiller sur le site. En général, ils ne le reproduisent pas dans son intégralité, les éléments de contact ou ce genre de choses.
D'accord.
Et puis, s'il y a un seul moyen de paiement, en général du PayPal, c'est pas souvent bon signe.
D'accord.
Pour eux, ça laisse moins de traces que sur les cartes bleues, donc c'est souvent comme ça.
C'est intéressant ce que vous en pensez, Florence. Ça n'a pas envie de ce genre de choses.
Ça incite à un peu de prudence.
C'est clair, on va aller tous en magasin. Et vous parliez aussi des énormes réductions aussi, de faire attention à ça.
Oui, tout à fait. Bien souvent, quand ces réductions sont excessives, c'est un signe.
Ouais.
La plupart des grandes marques, en tout cas sur leur site, ne font pas des réductions de 80% ou autre.
Ouais.
Il y a des ventes privées ou ce genre de choses, ça c'est différent, mais sur leur site, ils ne vont jamais à ce niveau de remise, donc ça aussi, c'est un signe.
Et puis, dernière chose que j'avais notée aussi, on rajoute, ça fait 5 conseils quand même, que j'avais pas noté ça, mais aussi les offres qui ne proposent pas de retour ou des faux retours.
Oui.
Qu'est-ce qu'on perd là-dedans?
Alors, ça, c'est pas légal, de toute façon, en France, mais
d'accord.
C'est vrai que ça se retrouve dans certains pays, donc il faut se méfier, mais malheureusement, c'est souvent trop tard quand on s'en rend compte. Allons, si possible, sur des sites qui ont, on va dire, pignon sur rue et qui sont relativement connus, ça sera toujours plus facile.
Super, merci beaucoup pour tous ces conseils, on va faire d'autant plus attention, bien plus. Parmi les services et produits que vous proposez pour se protéger, on en a parlé tout à l'heure, mais il y en a un qui s'appelle Zone Alarm Extreme Security. Alors, qu'est-ce qu'on ces caractéristiques principales de cette extension, c'est ça ?
Oui, alors Zone Alarm, en fait, est le produit grand public que l'on commercialise, à la fois sur... les PC, Windows, en fait, on va aller sur des niveaux de protection vraiment très élevés. Tout ce qu'on a pu développer pour l'entreprise, on l'a porté pour le grand public. Donc, toutes les attaques, donc ce qu'on appelle le phishing, on pourrait rentrer les mots de passe sur des sites qui ne seraient pas les sites d'origine, on va pouvoir les détecter. Les malwares connus mais également inconnus qu'on va analyser et pouvoir vous dire si effectivement le fichier est dangereux ou non. Eh bien, on va également avoir ce type d'outils pour les smartphones ou les tablettes. Alors, c'est déjà pour protéger par exemple des réseaux qui peuvent vous écouter. Alors, je m'explique, les faux accès Wi-Fi, Il est extrêmement simple pour quelqu'un de se faire passer pour l'accès Wi-Fi du McDonald's ou de la SNCF sur lequel vous êtes déjà connecté.
Oui.
Et votre smartphone va se reconnecter automatiquement s'il s'est déjà connecté sur l'un d'entre eux.
Ah, oui.
Et après, facile pour le hacker d'écouter vos conversations, enfin surtout vos communications à destination du web et donc de regarder également à qui vous vous adressez, quels sont les mots de passe éventuels, etc. Donc ça aussi, on est en mesure de le détecter sur ces outils et donc d'alerter dès qu'un environnement devient dangereux en fait.
Quel est le prix de cette extension?
Je suis mal placé.
Ah, on va aller vérifier ça sur le site internet.
Zonealarme.com.
Tout à fait.
En fait, tout est en ligne.
Hein. Exactement.
On ne vend pas en commerce, donc c'est ces outils.
Oui.
Et vous les avez à la fois pour les PC, pour les smartphones.
Et les Mac. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Apple d'inclure, de protéger les données, vous savez, de personnes quand ils vont se connecter sur de nombreux sites au lieu d'utiliser Google ou autre chose? C'est une bonne proposition, vous trouvez?
De toute façon, toute proposition qui amène de la sécurité est une bonne chose.
Hein,
et plus les fournisseurs de solutions natives telles que donc les PC, les Mac, les équipements eux-mêmes peuvent aller à un niveau de sécurité élevé, plus on est content à ce niveau-là, mais on s'aperçoit d'une manière générale, hein, c'est qu'il y a toujours des manques. Ils essayent d'aller certains plus loin que d'autres, mais ça reste une préoccupation mineure. C'est pas ça qui fait vendre le produit.
D'accord.
Donc souvent il faut aller un peu plus loin. Ouais. Ce qu'ils fournissent, quoi.
Faut lire les notices, quoi, et tous les petits caractères en gros. Merci pour ces informations, Philippe. Plus d'informations donc sur les services et produits de Checkpoint Software Technologies sont disponibles sur checkpoint.com avec /fr, de toute façon c'est automatique. Il y a aussi un blog si vous voulez rester informé pour des conseils quant à la sécurité de vos données en anglais, et puis vous faites Google Trad, tout ça. Vous trouverez tout ce qu'il faut, mais comme on vous l'a dit, c'est bien de rester informé et d'éviter de se faire arnaquer. On va passer au segment bout de lecture et je vais vous demander qu'est-ce que vous proposez comme découverte lecture à nos auditeurs, Florence.
Alors, moi je suis venue avec Passagère du silence de Fabienne Verdier. Fabienne Verdier, c'est une artiste qui, à l'âge de 20 ans, elle est sortie donc des Beaux-Arts de Toulouse. Mmh. Elle est partie une dizaine d'années en Chine apprendre notamment la calligraphie chinoise.
Okay.
Et cette expérience en Chine est vraiment incroyable. Moi, ce qui m'a frappée, c'est le... comment la créativité naît de la discipline. C'est-à-dire que le grand maître de calligraphie, qui est son professeur, mais pendant des mois et des mois, lui fait faire un seul trait.
Ouf.
Et jamais, c'est jamais le bon trait.
Oui.
Et elle persiste, et voilà.
D'accord.
Et un jour, elle arrive à passer au point.
Ah.
Je me dis, oula.
Ok.
Et voilà, et maintenant elle fait des œuvres d'art absolument incroyables. Et c'est ce mélange de disciplines extrêmes qui finalement nourrit la créativité.
Ouais.
Voilà, ça m'a vraiment frappée.
D'accord.
Et ça se lit très bien dans le sens où elle partage aussi son expérience en Chine. Et c'est au moment où la Chine est encore... encore assez fermé aux Occidentaux, donc c'est vraiment une belle expérience.
Génial, ça s'appelle donc...
Donc, Passagère du silence de Fabienne Verdier.
C'est intéressant ça, pour les impatients, j'imagine. Et pour ceux qui manquent... Non, mais j'ai réalisé il y a quelques temps que beaucoup de gens manquaient de discipline.
Oui, et de persévérance.
Exactement.
Et, on se dit, tant pis, j'y arrive pas.
Oui, voilà. Ou bien même Il y a des... C'est vrai que l'action robotisée du quotidien... peut des fois nous permettre de sortir de notre créativité, mais ça nous laisse aussi de l'espace pour être créatif, je trouve aussi.
Oui, justement.
Parce qu'on perd moins de temps à réfléchir à comment je vais m'habiller, ce que je vais manger le matin, si tout est régulé, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Philippe, ça nous permet de laisser de l'espace pour autre chose. Votre bout de lecture, Philippe, du coup.
Alors, j'ai oublié de l'amener, et résultat, je ne me rappelle plus exactement l'auteur. Le nom du livre s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et c'est le vice-président innovation de Samsung, qui est un Français, qui l'a écrit. Et il développe effectivement ce concept en expliquant que ce que l'on connaît, de l'intelligence artificielle utilisée dans nos smartphones, etc., en fait, c'est de la science de la donnée à grande échelle, mais ce n'est pas réellement de l'intelligence artificielle, et qu'il y a beaucoup de mythes et d'imagination autour de l'intelligence artificielle, mais qu'on n'est pas prêt à court terme à en voir une réalisation.
En France ou dans le monde ?
Dans le monde.
D'accord, non, si j'ai fait mon petit coup de poing, parce que je suis d'accord avec vous, parce que j'en parlais justement avec un ami qui travaille dans ce domaine aussi également, et il m'a fait tout un discours sur l'intelligence artificielle. Moi, j'étais là, ok, d'accord, mais il n'y a rien, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui, c'est difficile, donc...
Bon, c'est essentiellement l'analyse de la donnée,
tout à fait.
En très grand nombre, tout à fait. Ça fonctionne très très bien,
ouais.
On fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas réellement de l'intelligence artificielle.
Merci, je lui enverrai cette partie de l'interview spécifiquement. Est-ce que vous avez des lectures adaptées pour le début de l'année, vous savez, pour vous, je sais pas, se booster, se motiver?
J'ai commencé Essentialisme, qui incite à, comme son titre l'indique, à revenir à l'essentiel, à faire du tri, notamment dans ses engagements. Et ça pourrait être une résolution de bonne année pour moi. Dire, ok, j'ai envie de faire plein de choses, peut-être que je peux me concentrer sur l'essentiel.
Ouais, voilà. Ouais. Et vous avez un style de livre pour les débuts d'année? Je sais
non,
pas.
Non,
tout va bien. Ce genre de choses. Je vais prendre ma santé en main. Non, ce genre de... Non, pas du tout. On a des types en général de livres début d'année. Moi, je lis régulièrement, donc je n'ai pas vraiment de style. Je vais vous proposer trois ouvrages, trois styles littéraires différents qui vont vous aider à ne pas abandonner le désir, l'envie de lire et de chercher de toujours de nouvelles lectures. Donc voilà, on va commencer avec de la science-fiction et les derniers tomes de la série Les Chroniques de Saint-Marie de Jodie Taylor, qui est autour du voyage dans le temps par un institut de recherche historique. Donc on en avait parlé dans l'émission Bout de lecture cet été, des tomes 1 à 3, le dernier s'appelait Seconde Chance, et celui-ci est sorti en octobre dernier, qui s'appelle donc Une Trace dans le Temps. C'est toujours autour du voyage dans le temps, bien entendu, mais on sort du contexte. Il y a une lutte du pouvoir avec les informations, dans le temps. Également, le personnage principal son histoire avec sa relation avec son ami est un peu plus précise également, donc c'est plus concentré sur ça, c'est un peu plus roman, on va dire, pour ce livre aussi. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir. C'est un livre qui se déguste, qu'on avale très vite aussi, tellement qu'il est passionnant et excitant, surtout si vous aimez l'histoire également. Et puis notez, pour les fans, parce qu'il y a des fans pour ce livre, le prochain ouvrage, donc le tome 5, celui-ci le tome 4, sort le 20 février 2020. Donc voilà, édition Hervé Chopin. N'hésitez pas à vous faire plaisir si vous voulez regarder les couvertures qui changent à chaque fois. Ensuite, pour le côté magie, je vous propose le premier volume de The Witcher. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
C'est une série.
La tête de Philippe, ça veut dire évidemment.
J'ai des enfants.
The Witcher. On dit
un enfant de 18 ans. Donc
voilà, c'est le nouveau Game of Thrones, paraît-il. Je ne trouve pas, moi en tout cas. Il y a une série sur Netflix qui vient de démarrer. Donc, le polonais auteur André Sapkowicz a écrit ce livre il y a quelques années, qui fut un succès littéraire, un succès en jeu vidéo et un succès, bien sûr, en série grâce à son personnage principal qui s'appelle Geralt de Rive, un sorcier chasseur assassin de créatures extraordinaires, interprété par Henry Cavill, qui est... Bon, je suis la seule, je crois. Oui. Superman au ciné. Zut alors, vraiment, c'est vrai, moi avec Henri Cavill. Mais en tout cas, voilà, c'est un succès sur Netflix, parce que Netflix le confirme, apparemment c'est sa série la plus populaire sur sa plateforme. Édition Big Bang, le dernier vœu, c'est le premier tome de cette série, qui d'autres livres vont sortir prochainement.
Je vous laisse de ne pas être dans la cible.
Si vous voulez sortir de vos sentiers battus, moi je vais pas l'aimer après, c'est clair. Ça se lit très rapidement en plus, hein, je peux vous le garantir. On termine avec un livre un peu plus professionnel pour l'année, voilà, pour ceux qui ont des projets aussi cette année. Le livre Pour réussir vos logos de Gail Anderson et Stephen Ayler. Un livre très intéressant qui présente sur des doubles pages à chaque fois l'identité de 50 sociétés. Vous avez Lego, vous avez Windows, vous avez Isemiake, vous avez Amazon. Comment ont-elles fait le choix de logo, les coulisses, qu'est-ce que représente ce logo, pourquoi le logo est-il si important pour représenter la vision de l'entreprise et aussi sa communication. Vraiment, si vous voulez vous inspirer et faire le bon choix du logo, je vous propose le livre Pour réussir le logo, Pyramide Édition. C'était difficile de choisir vos logos. logo pour vous? Est-ce que vous avez des logos? Ben oui, chaque compte a un logo. D'ailleurs, j'ai pas compris son logo.
Ah ben. Un peu compliqué.
Profitons-en. Qu'est-ce que ça signifie, ce logo?
Ça symbolise un ordinateur avec un réseau à l'intérieur, mais quelqu'un comprend, c'est déjà pas mal.
C'est clair. Je pense qu'ils auraient besoin de cet ouvrage. Et vous, Florence, avez un...
Je n'en ai pas encore.
Ah, vous y pensez?
Oui,
c'est vrai.
Sûr.
Il faut penser du coup à la forme, à la couleur, la taille, etc. Si on, des fois aussi, on met juste le logo ou un dessin, enfin, et le nom, donc toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas, ça veut dire quelque chose. Et je vous conseille de le lire si vous voulez vous faire une idée. 50 identités graphiques et iconiques pour vous inspirer. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des plans à proposer pour vous, d'ailleurs, avant, pour le mois de janvier? Avec la grève,
ça
qui persiste, ça fait sauter tous les plans. Ouais. Non, pour rien,
oui,
pour l'instant.
Honnêtement, oui, moi
c'est
ça,
difficile, hein.
Ça a décalé tout, tous les événements, à peu près tout.
Les théâtres, les machins, les sorties avec les enfants, tout ça.
Tout est en suspens.
Exactement. Oui, c'est très compliqué.
Heureusement, il y a ce rendez-vous qui a été maintenu.
Merci. Malgré la manifestation et tout ça, c'est pas mal. Ça permet un peu de pouvoir continuer ses activités, parce que c'est vrai qu'on évite de prendre des décisions parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je vous propose quand même un événement pour les sneaker addicts. Est-ce que vous êtes un sneaker addict?
Comme je le disais, j'ai un fils de
10 ans. Il va être content du coup. Et vous, Flora?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Voilà, pour ceux qui le sont, en tout cas, notez que le 25 et 26 janvier, je pense que vous irez y résilient, se tiendra pour la première fois à Paris le rendez-vous Sneaker Summit. Alors, au programme de ce premier sommet organisé au Paris Event Center dans le 19e arrondissement sur le thème les baskets de la rue au grand écran, exposition, marketplace, conférence, street art, food court, je ne sais pas ce que c'est, skatepark, tournoi de basketball 3-3, workshop et showcase sur un espace de 4200 mètres carrés. Donc voilà, vous pourrez laisser votre enfant aller faire ses choses et vous, de l'autre côté, profiter du foot. Philippe, voilà, prix de l'entrée 11 euros pour un jour et 16 euros pour les deux jours. Découvrez le programme sur sonofsneakers.fr. On vous mettra le lien, ne vous inquiétez pas, dans l'éditorial de l'émission. Vous avez des idées à partager, des choses que vous avez entendues, que vous aimeriez conseiller à nos auditeurs pour le mois de janvier? Malgré la grève, je sais.
Ah, moi, il y a l'expo Gréco que je voudrais enfin aller voir.
Oui.
Je me dis que paradoxalement, c'est peut-être le bon moment. Il y aura probablement moins de monde.
Donc, c'est vrai.
Donc, voilà.
Ça finit quand?
Je crois début février.
Oui, il y a un peu de temps là.
Oui,
avec le Fitbit.
Expo Fitbit. Voilà. Et des sneakers.
Tout à fait, exactement. C'est une très bonne idée. Et vous, Philippe?
J'aimerais aller à l'exposition Léonard de Vinci.
Mais
en plus desservi par la ligne 1, donc il risque d'y avoir du monde.
Oui, aussi, c'est vrai. En comptant que le samedi et le dimanche, enfin le week-end, les horaires ne sont pas pareils pour les transports. C'est vraiment une vie compliquée tout autour de la grève. Ah, ça suffit, arrêtons d'en parler. On continue en tout cas sur nos actus du côté de MM Radio. C'est aussi la rentrée après le launch show de nos autres émissions. Ne manquez pas d'écouter l'émission des auteurs. Lecture le 15 février avec le pasteur et auteur Alain Patrick Senguet qui vous invite à vous confier en Dieu pour obtenir votre guérison gratuitement, simplement avec la foi pour ceux seulement qui ont des maladies très difficiles comme le cancer. Et autres. Alors le 6 février, ce sera le tour de Masterminds, notre programme mentoring pour les entrepreneurs avec tous les derniers invités de MM Radio qui répondent à une même question par trimestre à découvrir. Également l'émission MM Fit qui va revenir très prochainement hors saison estivale. Et puis l'émission Œuvre de foi pour vous conseiller à mieux vivre votre foi avec des expériences et des personnes qui vivent leur foi au quotidien. Voilà, notez bien le nouvel horaire du lunch show en cette saison 5, midi et demi, donc non plus 13h30 chaque mois que vous pouvez écouter donc sur les applications Apple Podcast, TuneIn, Acast et Stitcher. Et depuis quelques mois, notez que vous pouvez écouter nos émissions sur le web, sur le site Apple Podcast, et cela même pour les téléphones Android. Voilà. Suivez toutes les actualités du Lone Show ainsi que MM Radio sur nos réseaux sociaux @MasterminderENT. Et puis, retrouvez les extraits vidéo de cette émission sur notre page YouTube MMT Productions dès lundi prochain. Voilà, merci beaucoup Florence pour vos conseils. On en prendra bien soin, les auditeurs. Merci Philippe aussi. On va faire plus attention, du coup, on va prendre note pendant ces soldes. Nous vous souhaitons une année belle et riche en projets, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, nos invités, et on vous dit à très bientôt sur MM Radio.
Merci.
MM Radio.